Libre FM, les infos.
Bonsoir fidèles auditeurs et auditrices de Djoliba FM, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 19h, voici les titres. Le président Assimi Goïta inaugure des infrastructures pour le développement et le rayonnement sportif au Mali. Les premières pierres du futur stade Omnisport Mali Arena ont été posées ce mardi 14 janvier 2025 à Koulikoro. En deuxième titre, nous parlerons du Gemou, une cérémonie funéraire d'Ogon qui résiste au temps et à la menace djihadiste. Et enfin, à la page internationale, entre autres titres, éruption des volcans en Indonésie, 500 personnes évacuées, des milliers refusent. Encore une fois, fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir. L'État malien et la Société des mines de Comana SMK ont conclu un protocole d'accord historique visant à migrer à la société vers le code minier de 2023. Cet accord renforce la souveraineté minière du Mali avec une augmentation de la participation de l'État à 20% et des engagements pour le développement du secteur grâce à des investissements stratégiques. Abibatou Diop pour des précisions.
Un protocole d'accord a été signé entre l'État malien et la Société des mines de Comana, SMK, marquant la migration de cette société vers le code minier de 2023. Cet accord prévoit une augmentation de la participation de l'État dans la société, passant de 12,5% à 20% sans contribution grâce à des concessions de la SMK, notamment l'annulation de 10 milliards de crédits de TVA et le paiement de 10 milliards de dettes envers l'État. La mine de Comana, située dans le cercle de Yanfouila, région de Bougouni, génère environ 100 milliards de francs CFA et bénéficie désormais d'une extension de son permis d'exploitation. Le protocole inclut également des engagements pour renforcer le contenu local, le fonds de réhabilitation et les investissements dans la recherche et l'exploration de nouveaux gisements. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Alousseni Sanou, et le ministre des Mines, le professeur Amadou Keïta, cet accord reflète la souveraineté renforcée du Mali sur cette ressources minières.
À Koulikoro, le président Assimi Goïta inaugure des infrastructures pour le développement et le rayonnement sportif. En visite officielle dans la cité de Méguétan, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a inauguré le stade rénové Mamadou Diarra H et posé les premières pierres du vestibule des légitimités traditionnelles et du nouveau stade Omnisport Mali Arena. Ces infrastructures visent à promouvoir le développement, renforcer la place des autorités et positionner le Mali comme un acteur majeur du sport international. Plus de détails avec Idrissa Sagara.
Lors de sa visite officielle à Koulikoro, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a inauguré et lancé plusieurs infrastructures d'envergure. Il a procédé à l'inauguration du stade Omnisport Mamadou Diarra, fraîchement rénové, et à la pose des premières pierres des deux grands projets, le vestibule des légitimités traditionnelles de Koulikoro et le nouveau stade Omnisport Mali Arena. Le stade Mali Arena, une installation ultra-moderne de 10 000 places avec des espaces VIP et presse, deviendra le troisième du genre en Afrique. Il est conçu pour accueillir des compétitions internationales, renforçant ainsi la place du Mali sur la scène sportive. Le président a salué les récents succès des équipes nationales basketball, symbole de dynamisme sportif malien. Le vestibule des légitimités traditionnelles vise à honorer et renforcer le rôle des autorités coutumières dans le développement, la paix et la sécurité. Le président a également annoncé la réalisation de vestibules similaires dans chaque région du Mali, soulignant leur importance dans l'harmonie sociale du pays. Cette visite a coïncidé avec la cérémonie de sortie de la 46e promotion de l'école militaire interarmes EMIA, baptisée Feu général de brigade Toumani Sissoko, marquant une étape clé dans le renforcement des capacités de défense nationale. Le président de la transition a réitéré son appel à l'engagement collectif des Maliens pour consolider la paix, la sécurité et le développement du pays.
Maintenant, place à la page internationale avec Sokona Diakité qui est déjà dans ce studio. Bonsoir Sokona.
Bonsoir Tiena, bonsoir aux éditeurs de Djoliba FM.
La page internationale du jour nous envoie d'abord au Nigeria. 9 soldats nigériens ont été tués par le Boko Haram après l'enterrement des victimes du dernier massacre djihadiste.
Au moins 9 soldats nigériens ont été tués dans des affrontements avec les djihadistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, quelques jours après les meurtres de dizaines d'agriculteurs par un groupe djihadiste rival, ont indiqué jeudi des sources. Les affrontements ont eu lieu mardi, deux jours après que des dizaines de fermiers ont été abattus par des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, selon son acronyme en anglais, sur les rives du lac Tchad, dans l'État de Borno, dans le nord-est du pays le plus peuplé d'Afrique. En plus des 9 soldats tués, 5 autres seraient toujours portés disparus. Concernant Boko Haram, les sources n'ont pas indiqué si le groupe avait subi des pertes dans les combats.
Espérons que ces soldats disparus puissent être retrouvés. Toujours la sécurité en Afrique, l'organisation Médecins sans frontières dénonce une attaque contre son personnel dans le Haut-Nil au Soudan du Sud.
Oui, cette fois-ci, nous sommes au Soudan du Sud. Médecins sans frontières, MSF, a dénoncé jeudi une attaque armée perpétrée la veille sur deux bateaux transportant des membres de son personnel dans l'état du Haut-Nil Nord, qui a contraint l'organisation à suspendre tous ses mouvements dans cette zone. Les bateaux clairement identifiés rentraient dans le comté de Oulang mercredi après-midi après avoir livré des fournitures médicales à l'hôpital du comté voisin de Nazir, dans le nord du pays d'Afrique de l'Est, en proie à une instabilité chronique, explique l'ONG dans un communiqué. Des hommes armés non identifiés, ont ouvert le feu sur les bateaux, forçant le personnel de MSF à sauter à l'eau et à nager jusqu'à un village voisin pour se mettre à l'abri, écrit l'organisation, précisant qu'un des 6 membres de MSF a été blessé lors de sa fuite. Bien que tout le personnel soit parvenu à arriver en sécurité à Oulang, cette attaque constitue une violation grave des principes humanitaires du droit international, ajoute l'ONG. Après cette attaque, MSF annonce suspendre tous les mouvements dans les comtés de Nassir et d'Oulang. MSF appelle à la mise en place de mesures immédiates pour garantir la sécurité et la protection des travailleurs humanitaires, ainsi que la livraison sans entrave de soins médicaux essentiels aux personnes dans le besoin, ajoute l'ONG Tchanan.
Merci Sorona. L'actualité internationale, c'est aussi hors de l'Afrique. En Asie, les Indonésiens subissent une éruption volcanique. 500 personnes ont été évacuées et des milliers refusent.
Des milliers d'habitants ont rejeté jeudi un ordre d'évacuation prononcé par les autorités dans l'est de l'Indonésie malgré les éruptions à répétition du mont Ibu, estimant être habitués à une telle situation. Seuls environ 500 habitants du village le plus proche du volcan ont été évacués depuis mercredi soir, ont indiqué les autorités locales. Le mont Ibu, situé sur l'île d'Halmahera, dans la province des Moluques du Nord, à l'est du vaste archipel, est entré en éruption mercredi, envoyant une colonne de fumée haute de 4 km dans le ciel. L'agence géologique indonésienne a dès lors porté le niveau d'alerte du volcan au seuil le plus élevé de son système, qui en compte 4, ce qui a amené les autorités locales à appeler les 3000 habitants vivants aux alentours à évacuer.
Nous terminons cette page internationale en Corée du Nord, un pays fermé au tourisme. Cependant, cette année, l'État rouvre au tourisme une ville du Nord-Est selon des tour opérateurs Sokona.
La Corée du Nord a rouvert aux autorités étrangères une ville du... La Corée du Nord a rouvert aux touristes étrangers une ville du Nord-Est près de la frontière avec la Chine et la Russie, ont annoncé des tours opérateurs jeudi, 5 ans après la fermeture du pays en réaction à la pandémie de COVID-19. Début 2020, le pouvoir nord-coréen avait décidé de couper l'accès au pays pour y empêcher la propagation du coronavirus, puis avait renforcé ses moyens de défense dans le nord, le long de sa frontière avec la Chine, pour dissuader ses propres ressortissants de rentrer illégalement dans leur pays. Les échanges commerciaux avec la Chine ont depuis repris au compte-gouttes, comme les visites des délégations officielles, et la Corée du Nord a autorisé l'an dernier les touristes russes à y voyager pour la première fois depuis la pandémie. Jeudi, 2 tours opérateurs ayant des activités en Chine ainsi qu'un autre dont les sièges se situent en Espagne ont indiqué avoir été informés de la possibilité pour les touristes étrangers de se rendre à nouveau dans la ville de Rasson, dans le nord-est de la Corée du Nord. Et c'est ce qui met fin. Pardon, je demande pardon aux auditeurs. Oui. Et c'est ce qui met fin à cette page internationale. Tchana.
Merci beaucoup, Sokona. Les auditeurs ont bien saisi ces informations. De retour au Mali, nous allons revenir tout à l'heure après le jingle. De retour au Mali, comme je le disais, parlons culture. Le Guémou, cérémonie funéraire d'Ogon qui résiste au temps et à la menace djihadiste. Malgré la modernité et la menace djihadiste qui plane sur la région de Banjagara, certains villages s'accrochent à leurs pratiques ancestrales. Nous nous intéressons au Guémou, la cérémonie funéraire qui rend hommage au patriarche dans le milieu d'Ogon. C'est une fête qui rassemble hommes et femmes. Le Guémou, cérémonie funéraire d'Ogon qui résiste à la modernité et à la menace djihadiste. C'est un reportage signé Moussa Tembiné et Makan Fofana.
Des chants rituels soutenus par des éloges funèbres, une foule en liesse. Nous assistons à la cérémonie funéraire du patriarche de Djambé, village perché sur la falaise de Banjagara, à plus de 600 km de Bamako, la capitale malienne. Le Guémou, cérémonie funéraire du patriarche, rassemble plus d'une centaine de personnes venues des villages voisins. Cette fois, pas de danse des masques qui demande assez de temps pour la préparation et de gros moyens. Malgré la menace djihadiste, Youssouf Toloba, le chef de la milice d'autodéfense d'Ana Ambassagou, ne rate pas cette fête rituelle.
Nous avons organisé cette cérémonie pour rendre hommage à notre grand-père Bolobo. Quand un patriarche décède, on l'enterre et on attend la période des Fandari pour fêter.
Fandari intervient après la récolte allant du mois de décembre à février. Une fête grandiose est organisée selon la conjoncture économique où l'on prépare un mets délicieux et en abondance, souvent jusqu'à 5 jours, soit une semaine d'Ogon. Youssouf Toloba, chef de la milice d'Ana Ambassagou.
Nous préparons du mil, du sorgho et du haricot. C'est symbolique, ce sont les derniers repas du défunt. Sa part est réservée dans chaque plat. Hommes et femmes, tout le monde vient faire ses adieux.
Pendant la cérémonie, les petits-enfants du défunt se déguisent pour l'imiter. Les funérailles rééquilibrent l'harmonie entre le monde des vivants et celui des ancêtres, nous explique Ali Tembiné, doctorant et chercheur de la cosmogonie et les rites d'Ogon.
L'amour n'est qu'un changement de domicile. À partir de ces différentes fêtes, le Dogon espère que l'âme va quitter paisiblement maintenant le monde des vivants et rejoindre le monde des morts.
La préservation de cet héritage suscite de l'inquiétude chez Youssouf Toloba à un moment où l'insécurité provoque un déplacement massif des populations.
Chez nous, les Dogons, la mort n'inspire pas la peur. C'est l'islam et le christianisme qui font que certains sont angoissés face à la mort. Cela arrive parce que beaucoup ont abandonné la tradition.
Cependant, Ali Tembiné relativise.
Le rituel funéraire qui est le Guémou pour les patriarches et le Dama pour toutes les personnes décédées au pays d'Ogon sont en voie de disparition dans beaucoup de villages au pays d'Ogon. Il y a beaucoup de villages aussi qui en conservent cette richesse culturelle qui n'est que le socle de vivre ensemble entre les communautés.
Les chercheurs estiment qu'il est urgent d'inscrire les cérémonies du Guémou et du Dama au patrimoine culturel immatériel de l'humanité pour leur pérennité.
À présent, du sport avant de boucler ce journal, championnat national professionnel Ligue 1, le Benga FC limoge son entraîneur Sekou Berté moins de 24 heures après sa défaite face à l'AS Real de Bamako 2-1. L'annonce a été faite par le club via sa page Facebook. Sekou Berté est le troisième entraîneur limogé depuis le début de la saison. Plus de précisions avec Aminata Dede Sissoko et Abdoul Dembélé.
Battu par l'AS Real en ouverture de la 8e journée du championnat national 2-1, les Binga FC et son entraîneur Sekou Berté ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Avec une victoire, 4 nuls et 2 défaites, les Binga FC occupaient la 6e place du classement avant le début de cette journée. Pourtant, Sekou Berthe était confiant après cette défaite de son équipe.
D'entrée, on est bien rentré dans le match, on avait le match en main. Par maladresse, on a été taclé dans la surface, alors qu'on le dit, on le répète plusieurs fois, on ne tacle pas dans la surface. Si tu fais ça, tu donnes l'opportunité à l'adversaire, et pénalité aussi. Donc c'est ça qui nous a... Voilà. En première mi-temps et en deuxième mi-temps, on est revenu plus fort, on a égalisé. On devait continuer sur ce lancer-là, sur cette dynamique-là. Et on a reculé encore une fois, on n'a pas respecté les consignes. L'adversaire a poussé. Non, on travaille, on ne se focalise pas sur une personne, on se focalise sur le groupe, c'est le groupe qui doit travailler, c'est le groupe qui doit avancer.
Ainsi, après Firmin Sanou de l'AS Real, Baïba de l'AS Bakaridjan, Sekou Berthe devient le 3e entraîneur licencié après 8 journées du championnat national. A noter que lors de cette 8e journée, l'USFAS s'est imposé sur le FC Zara 2-0 et l'AS Police a dominé l'ASCO 1-0.
Et c'est ce qu'il fallait retenir de ce journal d'aujourd'hui, présenté et préparé par la rédaction Djoliba TV News et FM. Présentation Tiana Tangara, mise en onde Boubacar Traoré, chef d'édition Abibatou Diop, que nous remercions. Fidèles auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et restez sur Djoliba FM, le programme continue.